Bonjour. Alors, nous continuons notre parcours dans les lettres de Jean. Alors, on approche vraiment de la fin. C'est certainement l'avant-dernière fois que vous en entendez parler. Enfin, avant quelque temps. Et donc, nous, aujourd'hui, nous allons nous attacher à regarder un petit peu la deuxième lettre de Jean. C'est une courte lettre. Alors, si José, tu peux l'afficher. Donc, deux Jean. En entier, en version sommaire. L'ancien, à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandus à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison, ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur que Dieu a choisie t'adressent leurs salutations. Alors, pour redonner un petit peu de contexte, on l'a vu au verset 1, c'est l'ancien qui écrit une lettre à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants. Alors, Yann en avait parlé lors de la toute première intervention sur les lettres de Jean. L'ancien dont il est question, c'est très certainement Jean, le disciple de Jésus. Nous sommes donc à la fin du premier siècle. Et Jean écrit à la dame élue et ses enfants. Ce sont donc probablement les membres d'une église sœur. On voit aussi au dernier verset, les enfants de ta sœur que Dieu a choisis, donc ce sont deux communautés, Jean fait partie de l'une et qui écrit à une autre communauté. Et face à l'hostilité qui peut exister vis-à-vis des chrétiens à ce moment-là, il fait preuve de prudence. Contrairement à trois Jean qu'on verra une autre fois, là il ne nomme personne. Il écrit juste à la dame que Dieu a choisie, à ses enfants, donc à l'ensemble de la communauté. Et l'objectif de sa lettre, c'est de lutter. En fait, lutter contre des hérésies qui peuvent venir, des personnes qui viennent pour apporter de faux enseignements. Et c'est dans ce contexte-là que donc il écrit cette lettre. Alors beaucoup de thématiques qui font partie de cette lettre ont déjà été vues plusieurs fois, même dans 1 Jean. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites par rapport aux semaines passées et qu'on va pouvoir en retirer quelque chose de neuf pour notre semaine à venir. Alors dans la première partie de la lettre, Jean nous parle ici de la vie interne de la communauté. Il va parler d'amour et de vérité. Au verset 4, il dit: J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. Alors qu'est-ce que cette vérité dont on parle là? Dans 1 Jean, il avait écrit: C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. La vérité, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. c'est Jésus-Christ venu pleinement humain. C'est Jésus-Christ mort pour nos péchés. C'est Jésus-Christ revenu à la vie. C'est l'enseignement de Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous est transmise aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce important de se tenir à la vérité ? Ce verset nous dit que c'est d'abord un commandement du Père. La libération qu'offre le Christ à la croix, ce n'est pas la liberté de transgresser les commandements de Dieu, mais c'est la liberté de les accomplir. Au travers de sa mort et sa résurrection, Dieu nous offre la possibilité d'y arriver. Ces commandements ne sont pas impossibles. La deuxième raison pour laquelle suivre la vérité est important, parce que, et c'est ce que le tout début de la lettre nous dit, c'est que c'est le lien qui unit les chrétiens. Si on relit la fin du verset 1, Jean écrit « Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. » La raison pour laquelle les chrétiens se rassemblent, c'est parce qu'ils vivent cette vérité. La communauté chrétienne, c'est une société unique, où non seulement se côtoient, mais s'aiment des artistes, des médecins, des assistantes maternelles, des professeurs, des secrétaires, des informaticiens et autres encore. C'est au-delà des différences que notre société contemporaine y trouverait. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pas parce que nous avons la même passion, c'est pas parce que nous avons un même loisir, c'est parce que la vérité demeure en nous. Jean écrit, ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. C'est là le lien unique qui nous permet d'être ensemble et la raison pour laquelle nous vivons l'amour entre nous. Il ne s'agit pas seulement de croire en la vérité, mais de vivre selon la vérité. Alors dans son enseignement, dans le sermon sur la montagne qu'on trouve dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu ou en Luc 6, Jésus a mis la barre très haut. Il va au-delà de la loi de Moïse. Plus que d'éviter de faire du mal, il s'agit de rechercher le bien. Plus que de veiller sur ses pensées, plus que de veiller sur ses actes, il s'agit de veiller sur ses pensées. Et Jésus termine ce sermon sur la montagne par une parabole que je vais vous lire en Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Donc c'est Jésus qui parle et il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et qui l'applique ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un tas de ruines. » Donc Jésus termine son enseignement du sermon sur la montagne par cette parabole du fou qui construit sa maison sur le sable et du sage qui construit sa maison sur le roc. Quelle est la différence entre les deux ? Les deux ont écouté les paroles de Jésus. Les deux connaissent les commandements, les enseignements. Mais seulement un les met en pratique. Alors, de quelle mise en pratique nous parle cette lettre de Jean ? Rien de nouveau. La mise en pratique, c'est l'amour. Mais là où Jean insiste dans cette lettre, c'est qu'il ne s'agit pas juste de le dire que l'on s'aime les uns les autres. Il s'agit de le vivre. Et vivre, en fait, c'est au-delà de mettre en pratique une fois de temps en temps. C'est au cœur, dans chaque instant. Alors, comme l'a dit Manu tout à l'heure, la semaine a été parsemée de difficultés. On a entendu, je ne vais pas revenir sur Samuel, sur les maladies des uns et des autres. Dans cette mise en pratique de l'amour, il y a le fait, oui, lorsque ces événements arrivent, d'être solidaire, de faire preuve de compassion, d'aider. Mais le vivre, c'est au-delà aussi de ça. C'est dans ces moments-là, mais dans les autres moments de la vie aussi. Et Jean, ce que je trouve intéressant dans ce texte aussi, c'est que Jean qui a écouté les enseignements de Jésus, qui à ce moment-là a certainement eu plusieurs dizaines d'années de vie à la suite de sa rencontre avec Jésus, Jean continue de s'exhorter à mettre en pratique cela. Il ne dit pas seulement aux autres « faites-le », mais il sait que lui aussi a toujours besoin de se remettre en cause et de progresser dans ce domaine. Alors, après, dans cette première partie, nous avoir rappelé la nécessité de l'amour et de la vérité au sein de la communauté, Jean va, dans une deuxième partie, évoquer un danger. Un danger qui vient du dehors. Au verset 7, on peut lire « Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. » Jean nous parle donc du problème que des personnes entraînent d'autres dans l'erreur et il va donner deux recommandations dans cette lettre. Recommandation sous forme d'avertissement. Le premier, c'est le danger de se laisser séduire. Au verset 8, il dit « Prenez donc garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. » Il s'agit là d'une responsabilité personnelle de chacun, de prendre garde à soi-même. Il est facile d'écouter sans se poser de questions, sans remettre en question ce qu'on peut entendre, les enseignements. Et la conséquence dont Jean nous parle ici, c'est la perte du fruit des efforts. Alors de quoi parle-t-on ? Il ne s'agit pas ici de perdre le salut, mais la récompense pour le labeur chrétien. Si vous vous rappelez ces paraboles que Jésus a dit, qu'on retrouve dans les évangiles, nous sommes des travailleurs dans la vigne du Seigneur. Et le risque là, c'est de recevoir moins que le salaire d'un jour complet. Prenons garde à ne pas nous laisser séduire par des enseignements trompeurs. Et son deuxième avertissement, c'est de ne pas encourager de tels enseignements. Nous serions alors complices. Alors ce qui peut paraître étrange dans cette lettre, c'est que du coup, Jean demande à ce que l'on ne reçoive pas ces personnes-là chez nous, qu'on les salue même pas. Pourtant, ailleurs, dans l'enseignement de Jésus, il nous est demandé d'aimer tout le monde. Là, il s'agit, je le comprends comme ça, d'un cas particulier. Il s'agit de ne pas mettre en danger la communauté des chrétiens. Nous sommes face à une diffusion d'un message de mensonge, et c'est cela qu'il ne faut pas encourager. Alors, les mensonges de l'époque de Jean résonnent-ils encore pour nous aujourd'hui, dans notre société? Le mensonge dont il est question là, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Je pense que autour de nous, les mensonges dont on peut entendre au sujet de Christ, c'est plutôt que l'on peut avoir Dieu sans Christ. En fait, on aime bien avoir un Dieu à notre sauce. Quand je discute avec des ados, les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'on est sûr en fait que Dieu existait ? Est-ce qu'on est sûr qu'il est le Fils de Dieu ? Et puis après, mais en fait, même si on ne sait pas ça, est-ce que ça change quelque chose ? Et il est facile de penser que Dieu, avec juste son amour, les commandements qu'il a donnés, l'enseignement qu'il a donné, suffirait à nous sauver. Il est facile d'oublier que Christ est au centre, c'est l'essentiel. Le deuxième mensonge dont il est question dans le texte, ce sont des gens qui dépassent l'enseignement. Certains peuvent avoir la tentation d'aller à la pointe du raisonnement, d'aller au-delà de ce que les textes nous enseignent, de construire toute une réflexion et d'être juste de beaux parleurs qui ont longtemps réfléchi, mais qui au final s'éloignent de la parole de Dieu. La vérité, elle est là, elle nous a été révélée au travers de la Bible. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Puis ensuite, le troisième point concernant ces faux enseignements, auquel j'ai tout de suite pensé, en fait, en lisant ce texte, c'est les fake news que l'on propage en un clic sur les réseaux sociaux ou parfois juste en transférant des mails. On lit, ça nous paraît beau à la lecture et on diffuse autour de nous. Mais prenons garde à ne pas encourager la propagation de messages trompeurs, contraires à ce que Dieu nous a révélé. Alors pour conclure, Jean arrive au bout de sa feuille de papier, sa feuille de papyrus. Il n'a plus d'encre sur son stylo et il nous écrit ce verset que j'aime beaucoup. « J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors notre joie sera entière. » Ce verset, c'est un des rares versets que je connais par cœur, parce que mon grand-père s'amusait à me l'écrire à la fin, à me noter juste la référence à la fin de ses cartes postales qu'il m'envoyait. Et c'est vrai qu'il reflète cette réalité que l'on peut avoir dans la relation directe les uns avec les autres. Au-delà de s'échanger des recommandations, des informations par écrit, alors sur papyrus à l'époque, numériquement peut-être maintenant, Jean nous rappelle là la réalité de la relation directe, fraternelle et amicale. Dans le réel, on peut se dire plus de choses, avec plus de nuances. On peut mieux comprendre le soutien que l'on se porte les uns les autres. Alors, en conclusion de cette lettre, je dirais que nous sommes appelés à veiller sur les enseignements que nous recevons. Sont-ils fidèles à la vérité révélée par Dieu ? Vivons également dans l'amour et la vérité. Vivons des relations authentiques les uns avec les autres. Amen.